mes petits jouets, oui. Bien pratique. Voilà. J'en mets deux par mesure de sécurité. Alors, c'est un sujet assez délicat que je vais aborder aujourd'hui, et le titre, c'est Une génération perverse qui a choisi sa victime. Bien entendu, le verset de départ de cette étude, c'est Philippiens 2, versets 14 et 15. Alors, je vous le lis, parce que ça nous concerne, bien entendu. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle, pardon, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voilà. Donc, pas besoin de faire un dessin. Le Seigneur a fait de nous des lumières. Et ces lumières doivent briller au milieu d'une génération perverse. Alors il va falloir qu'on explique tout ça. Et bien entendu, vous savez que nous sommes à la fin des temps. Je ne vais pas vous faire un dessin pour vous l'expliquer, c'est évident. Mais il y a quelques caractéristiques qui semblent bon de rappeler. Et la première caractéristique, c'est que nous sommes arrivés à la maturité du blé et de l'ivraie. Donc ça, c'est dans Matthieu 13 au verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Pour le moment, l'ivraie est toujours là. Alors, petit détail entre l'ivraie et le blé, petit détail, ça se ressemble, le l'ivraie et le blé, mais le blé courbe sa tête quand il est mûr, tandis que l'ivraie, non. La deuxième chose, c'est que l'amour et la patience de Dieu sauvera jusqu'au dernier juste. Dans l'Apocalypse, au chapitre 6 et au verset 11, il est dit, vous vous rappelez, c'est ceux qui sont sous l'autel. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût comblé le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, vous voyez, vous ne faites pas trop d'illusions non plus sur notre éventuelle fin de vie. Hein, ça, on peut mourir dans son lit, bien sûr, mais on peut aussi être mis à mort. On continue. La période de la fin des temps est une période où le temps semble interminable. J'ai fait partie, moi, de ceux qui ont essayé de trouver la date. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, mais tu vas arrêter, oui. Alors, 2 Pierre 3, 4 nous dit, où est la promesse de son avènement? Il y a des gens qui disent ça. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc on a l'impression que rien ne change, sauf pour ceux qui ont les yeux ouverts. Hein. Ceux qui ont les yeux ouverts, on s'aperçoit bien qu'il se passe quelque chose. Et une quatrième caractéristique, c'est que le monde évolue par secousse, puisqu'il s'agit d'un accouchement. 1 Thessaloniciens 5, 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Tout le monde connaît ça, hein. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc ce sont des secousses imprévisibles, mais on sait qu'elles arrivent, et puis elles se rapprochent de plus en plus, comme les contractions au moment de l'accouchement, hein, jusqu'au moment où la douleur est à son paroxysme, et hop, le bébé sort. Voilà. Alors, les événements qui précèdent ce qu'on appelle la dernière semaine, vous savez, la prophétie des 70 semaines de Daniel, la dernière semaine, donc la dernière septaine, les événements qui précèdent ça, je crois pour ma part qu'elles n'ont pas de chronologie précise. Simplement, ce sont des temps qui doivent préparer le monde au retour du Seigneur. Et lui, il sait ce qu'il doit faire dans tel coin du monde, etc. Il le sait. C'est son travail. Et Dieu a marqué des temps, ça c'est vrai. Et la prophétie dite des 70 semaines, la prophétie de Daniel, nous dit qu'à la fin de la 70e semaine, donc tout à la fin, au moment où le Messie arrive, il est dit que le péché prend fin. Deuxièmement, que l'iniquité d'Israël, de tout Israël, est expiée. Troisièmement, que la justice éternelle est établie. Il établit la justice. Et quatrièmement, le Saint des Saints est roi, le roi des rois. Il revient en roi. Attention, il nous est dit que tout œil le verra. C'est vrai, mais je ne suis pas sûr, franchement, je ne suis pas sûr que tout œil sera capable de résister à sa vue. On nous appelle.
Oh, les affaires reprennent.
Les affaires reprennent. Alors, à la fin de la 69e semaine, vous savez que Yeshua est mis à mort, il est cloué, et s'ouvre le temps de la grâce. Durée inconnue, on ne sait pas. Et puis, la parenthèse se ferme, et on ouvre la 70e semaine. Il faudrait couper carrément la pile.
S'il te plaît, si tu peux...
Alors, en résumé, on voit que le temps de la grâce, en gros, il semble qu'il dure aux alentours de 2000 ans. Il semble. Et la dernière semaine, celle de la 70e semaine, va être une semaine très difficile pour l'humanité. Puisque on sait que Satan est jeté sur terre. Donc, gros problème. Mais moi, je voudrais vous lire aussi un texte que Yeshua a lu dans la synagogue, dans Ésaïe 61. Il a lu ceci. Il faudrait arrêter là, s'il te plaît.
S'il te plaît, attends. Non, moi, je ne suis pas d'accord là. Je suis désolé, mais écoute, pas de conversation privée ici. Tu sors. D'accord ?
Faut quand même respecter. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et le Seigneur s'est arrêté là. Mais il faut continuer parce que cette année de grâce, elle s'achève. Et s'il avait voulu continuer, il aurait pu continuer, le Seigneur. Et il va continuer bientôt. Alors je lis la suite. Parce qu'en fait, il a coupé en plein milieu d'un verset.
Oui, c'est vrai.
Je lis la suite. Et, donc, une année de grâce, et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, c'est pas n'importe qui, hein, pour leur donner un diadème, c'est la couronne, au lieu de la cendre, la Shoah. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Si c'est pas beau ça. Alors je vous informe, peut-être vous le savez, mais que si vous voulez lire, mais en hébreu, le psaume 102, c'est le psaume de la Shoah.
Ouais.
Extraordinaire. Alors, le jour de vengeance, il semble qu'il va durer une septaine. 7 ans, il semblerait. Et vous voyez que le prophète Daniel a dit ceci, dans Daniel 9 au verset 27, il, c'est celui que nous appelons l'Antichrist, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur le dévastateur. Donc, vous voyez qu'il y a ici une solide alliance. Et il va prononcer des paroles contre le Très-Haut, etc. Et ça va durer un temps, des temps, la moitié d'un temps. Enfin, vous connaissez ça. Je ne vais pas m'apesantir sur ces questions-là. Mais je veux dire que quelqu'un va réussir à séduire les autorités d'Israël, de l'Israël moderne. Quelqu'un va réussir à séduire. Je dis qu'une alliance, c'est pas n'importe quoi. Une alliance, c'est à la mort, à la vie. Le mariage est une alliance. C'est à la mort, à la vie. On ne brise pas ça. On ne le brise pas. Et ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un arrangement, ce n'est pas un truc qu'on fait comme ça à la sauvette en disant « Bon, ben, si jamais ça ne tient pas, dans 5 ans, ben, tu reprends tes billes et moi aussi. » Ce n'est pas ça du tout. Une solide alliance, c'est vraiment quelque chose qui engage. Il y en a eu plusieurs dans la Bible. Par exemple, avec Noé, il y a l'alliance de l'arc-en-ciel. Et Dieu prend des engagements. Après, avec Abraham, il y a une autre alliance. Et le signe de l'alliance, on en a parlé, c'est la circoncision. Ça n'est que le signe. Il y a toujours du sang dans une alliance, hein? Toujours. L'alliance avec Moïse, ce sont les 10 paroles, c'est le mariage du peuple hébreu avec Dieu. Et puis, lorsque Yeshua est venu, il fait une nouvelle alliance en son sang. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont finalement assez rares et solides. Et ici, Daniel, il précise que celui qui vient là, il va faire... Donc, déjà dans le mot « alliance », si vous voulez, il y a déjà cette solidité. Et lui, il rajoute une solide alliance. Ouf! Donc c'est vraiment quelque chose de costaud. Et ils le savent, évidemment, le peuple juif, tout Israël attend son Mashiach. Et si vous parlez avec les rabbins, ils vous diront, mais tous les signes sont là, on l'attend, peut-être cette année. Ils savent, ils attendent Mashiach. J'ai fait la route une fois en revenant de Paris avec un ami qui est Ben Noir. C'est-à-dire qu'il suit les lois de Noé.
Ah oui, Ben Noir.
Il est fils de Noé, Ben Noir. Et c'est un ami, on a fait des choses ensemble, etc. On est allé voir les rabbins ensemble. Et je lui disais, parce qu'il essayait de me faire comprendre que Mashiach, ça ne pouvait pas être Yeshua. Et je lui disais, écoute, arrête, on va patienter. Et puis, le jour où il va venir, ben, tout le monde sera d'accord. Hein? Ben, c'est vrai, tout le monde sera d'accord. Donc moi, je n'ai pas de souci avec ça. Mais tout le peuple d'Israël attend Mashiach, bien sûr. Tous les jours, ils en parlent, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils attendent. Et ils attendent quelqu'un qui va reconstruire le temple, qui va faire un certain nombre de choses comme ça. Alors, vous pensez bien que le malin est au courant de tout ça. Hein? Et il va y avoir évidemment une simulation de la venue du Mashiach. Voilà. Et donc, Satan est un être pervers. Et c'est un être qui est très intelligent, très doué. Sinon, il serait déjà au rencard. Vous savez, mais, bien entendu, Yeshua est le maître du monde et est beaucoup plus puissant que lui. Beaucoup plus puissant que lui. Donc, il le laisse faire parce qu'il lui a donné l'autorisation. Mais le malin ne fera pas autre chose que ce qu'il a reçu comme autorisation. Croyez-le bien. Ça veut dire que nous allons avoir affaire à un chef pervers, parce qu'il sera habité par Satan. Pervers, complètement pervers. Et c'est pire qu'un chef, puisque la parole nous dit que nous sommes dans une génération perverse. Donc c'est des populations entières. Moi, ça fait des années et des années et des années que je dis, mais ne laissez pas les enfants jouer avec tous ces jeux sur Internet, etc. Ne les laissez pas jouer avec ça. On les prépare à recevoir les démons. C'est la génération qui va recevoir les démons.
Ils les ont déjà.
Donc, c'est une génération qui va devenir et qui est en train de devenir perverse. Alors, je suis allé voir parce que, vous savez, ce mot-là, il n'est pas innocent. Je crois que si vous n'avez jamais rencontré quelqu'un de pervers, vous ne savez pas ce que c'est. C'est absolument abominable. Et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que quelqu'un de pervers avant d'aller plus loin. Alors, bien sûr, j'ai commencé par le dictionnaire. Hein, donc, je suis allé voir dans le dictionnaire Marabout. Et il donne des synonymes, il donne la définition du mot pervers et puis il donne des synonymes. Alors, le pervers, l'homme pervers, c'est celui qui aime changer le bien en mal, qui se plaît à le propager et qui aime à le voir faire à d'autres. Donc, vous voyez, c'est un inique. Alors, voilà pour moi ce que c'est que quelqu'un d'inique. C'est une chose de pécher, mais l'iniquité, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave que le péché simple. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si je suis un alcoolique, admettons, je bois, je frappe ma femme, etc. À ce moment-là, je détruis autour de moi et vraisemblablement, mon fils ou ma fille boira aussi. D'accord ? Je l'entraîne dans un chemin inique. C'est-à-dire, celui qui est inique, c'est comme s'il avait un canon et au lieu de viser la cible, sciemment, il tourne le canon à côté de la cible. De cette façon, il envoie sa famille, ses enfants, n'importe qui, tout son environnement, absolument en dehors de la cible. Et naturellement, il va en découler une pluie de péchés. Mais il a volontairement envoyé... Alors, une des plus grandes iniquités des chrétiens, je vais vous la dire. Je me suis fait mettre dehors d'une église à cause de ça. C'est quand deux parents chrétiens n'enseignent pas leurs enfants dans la parole de Dieu, ou enseignent leurs enfants dans la parole de Dieu, mais leur montrent un exemple contraire. Le résultat, c'est que les enfants, eh bien, on a fait en sorte qu'ils ne soient pas sauvés. Ça, c'est inique. On les entraîne dans un chemin de mort. Alors, vous savez, dans les écoles du dimanche, actuellement, on s'amuse beaucoup. On leur fait faire des dessins, on leur fait faire des tas de choses, mais on ne les enseigne plus. Ça, c'est de l'iniquité. On est en train de détruire la génération qui suit à cause de ça. Si vous saviez le nombre d'heures qu'on a passées avec nos enfants pour les enseigner, pour leur faire aimer Israël, pour les préparer, et ils ont toujours vu en nous que ce qu'on disait, on le faisait. Ce que papa et maman disent, ce que papa et maman promettent, ils le font. Eh bien, ils sont tous au Seigneur. Parce qu'ils ont vu. C'est pas pour se vanter, mais je vous assure qu'il y a énormément, énormément d'enfants qui sont mal partis parce qu'ils ont été mal enseignés, alors que c'est un ordre de Dieu. Ça, c'est de l'iniquité. Mais j'avais pas prévu de vous dire ça, mais bon, ça fait pas partie de l'étude. Alors, qu'est-ce que c'est quelqu'un de corrompu, selon la définition ? Eh bien, c'est un homme qui a été gâté, même pourri, dans ses habitudes et sa façon de vivre. Il est corrompu. Il est gâté pourri. Quelqu'un de dépravé, c'est celui qui trouve plaisir dans la corruption et qui se fait un principe de s'opposer par le mal aux honnêtes gens. Quelqu'un de vicieux maintenant, c'est celui qui est enclin à la débauche et qui a une disposition naturelle au libertinage. Alors, quelquefois, on dit, on pense que quelqu'un de pervers, c'est quelqu'un de vicieux. Pas forcément. C'est autre chose, la perversité. Alors, je suis allé voir dans la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible concernant les pervers ? Deutéronome 13:13. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons, servons notre Dieu ». Donc vous voyez, il y a la séduction. Dans Job, Job 15, verset 16, « Combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau ?» Donc c'est un inique et ça lui plaît. Dans Proverbe 6, 12, « L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté à la bouche. » Donc il ment tout le temps. Proverbe 16, 27, « L'homme pervers prépare le malheur. » Il a sur les lèvres comme un feu ardent. Il prépare le malheur. Donc il y a une stratégie derrière. Dans Proverbe 16, 28, « L'homme pervers excite des querelles. » Dans Proverbe 19, 28, « Un témoin pervers se moque de la justice. » Alors, je résume ce que dit la parole. Donc, un être pervers est séducteur, inique, menteur, organisateur du malheur, faiseur de discorde, se moquant de la justice, en un mot, sadique. Alors Dieu nous avertit qu'il a de la haine pour ce personnage. Proverbe 8:13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je vais. Et je vous assure, parce que nous on a quand même... On a vécu des choses, je ne vais pas les décrire ici, mais on a vécu des choses concernant un pervers. Un être pervers n'est pas un être ordinaire. C'est pas un être ordinaire. On a parfois du mal à imaginer son fonctionnement. Et pour essayer de vous expliquer comment fonctionne un être pervers, quand on a vécu cette épreuve, Véronique et moi, quand on l'a vécu, j'ai eu comme un déclic de compréhension. Je vais vous dire, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'étais dans la salle d'attente chez un médecin et je lisais les revues qui sont, vous savez, Femmes d'aujourd'hui, tous ces trucs-là. Et j'ai trouvé une explication concernant un être pervers. Et j'ai dit, mais c'est exactement ce qu'on vit. Et on vivait quelque chose que je ne vais pas vous décrire, ça ne sert à rien du tout. Et ensuite, on s'est documenté. Et on a trouvé un livre qui est une référence et que je vous invite tous à lire. C'est un livre de poche qui s'appelle « Le harcèlement moral » qui a été écrit par Marie-France Irigoyenne, qui est médecin, et qui nous explique ce qu'est un être pervers. C'est absolument... Il faut lire ça. Il faut lire parce que nous sommes dans une génération perverse. Alors, j'ai pris des extraits et je vais vous les lire. Comme ça, vous allez comprendre. Le pervers entre en relation avec les autres pour les séduire. On les décrit souvent comme des personnes séduisantes et brillantes. Donc, très intelligents. Un petit peu plus loin, elle dit « Autrui n'existe pas. Il n'est pas vu, pas entendu. Il est seulement utile. » dans la logique perverse, il n'existe pas de notion de respect de l'autre. Autrement dit, c'est quelqu'un qui va vous dire « Je t'aime beaucoup, t'es utile. » Le pervers ne s'intéresse pas aux émotions complexes des autres. Ils sont imperméables à l'autre et à sa différence, sauf s'ils ont le sentiment que cette différence peut les déranger. C'est le déni total de l'identité de l'autre. La force des pervers est leur insensibilité. Je vous rappelle le verset que Paul dit, les hommes seront insensibles. Insensibles, déloyaux, etc. Donc, écoutez ce qu'elle dit. Ils ne souffrent pas. Ils ne souffrent pas. L'efficacité de leurs attaques tient au fait que la victime, c'est pour ça que je parle d'une victime, n'imagine pas qu'on puisse être à ce point dépourvu de sollicitude ou de compassion devant la souffrance de l'autre. Un pervers va choisir une victime et il va l'épuiser pour en tirer sa vie. Voilà. Il va la pomper, d'une certaine façon. Il va extraire la vie de cette victime pour lui. Il vit aux dépens de la victime. Donc, dans la stratégie perverse, il faut d'abord séduire, et ensuite détruire l'autre, mais en le soumettant petit à petit. Et le garder à disposition. Il importe de conserver le pouvoir et de le contrôler. Les manœuvres sont d'abord anodines, mais deviennent de plus en plus violentes si la personne résiste. Si celui-ci est trop docile, le jeu n'est pas excitant. Il faut qu'il y ait suffisamment de résistance pour que le pervers ait envie de poursuivre la relation, mais pas trop pour qu'il ne se sente pas menacé. Vous voyez un petit peu ce qu'il y a derrière? Alors, quand la personne qui est victime veut discuter, eh bien, il est dit que l'agression est perpétrée par le refus de nommer ce qui se passe, de discuter, de trouver ensemble des solutions. S'il s'agit d'un conflit ouvert, la discussion serait possible. Une solution pourrait être trouvée. Mais là, le droit d'être entendu est refusé à la victime. La victime, si elle parle, le pervers ne l'écoute pas. Et comme il est insensible, il s'en fout. Avec le pervers, le discours est tortueux. Et lorsque la victime exprime ce qu'elle ressent, il faut la faire taire. Et c'est un être tellement intelligent que lorsqu'il se retrouve en public, par exemple avec sa femme qui est sa victime, eh bien, il passe pour un être extraordinairement gentil. Il a raison sur tout, et quand elle s'énerve parce qu'elle n'en peut plus, eh bien, il dit, ben, vous voyez, c'est une folle, c'est une malade, je fais tout ce que je peux pour elle, et regardez le tableau. Vous voyez comment il fait? C'est comme ça, le pervers. Alors, tout ce qui ne va pas, c'est de la faute des autres, jamais de lui. le pervers. Et il voit, écoutez, c'est important, il voit sa victime comme un monstre destructeur, violent, néfaste. La victime est de toute façon coupable en permanence de délit d'intention. Tout le temps. Et l'agresseur, qui est lui, se pose toujours en victime.
Exactement.
Voilà. Alors, si la victime réagit et cesse d'être un objet docile, elle est considérée comme menaçante et agressive, et ça lui déplaît, et alors il peut devenir violent. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui sont frappées, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, bien sûr, piquer, mais toujours en cachette, vous savez, il n'y a jamais de traces. Il va toujours essayer de blesser sa victime, l'user petit à petit, jusqu'au moment où elle va réagir, réagir en public, et là, il va l'humilier davantage. Voilà. Ça, c'est sa stratégie. Donc, elle n'a plus de force. Et beaucoup de victimes ont envie de se suicider, de disparaître, parce qu'elles ne sont reconnues par personne. Personne ne comprend leur situation. Personne ne comprend leur situation. Et le pervers abuse de ses fonctions, et sa volonté, au bout du compte, c'est d'obtenir le pouvoir à n'importe quel prix. Le pouvoir sur une personne. C'est son jouet. Il la détruit petit à petit. C'est son jouet. Et alors, il va s'arranger pour ériger des barrières autour de sa victime. Couper les relations. L'isoler de plus en plus. Et s'arranger, il va essayer, lui, de s'arranger pour trouver des associés qui sont avec lui. Et comme ça, tout le monde dit, bah oui, tu vois, c'est elle. C'est la victime. C'est de sa faute. Il constitue un réseau d'alliés qu'il persuade de sa bonne foi. Alors vous voyez, avec un tel traitement, parce que Satan est comme ça, et la génération perverse qui monte va être comme ça. Avec un tel traitement, on comprend pourquoi ces nations choisissent une victime qui est Israël. Et qu'ils vont se liguer parce que l'Antichrist aura placé sur la victime Israël tous les malheurs de la terre. C'est en cours, mais c'est commencé depuis pas mal d'années. Et je vais vous en donner des précisions. Alors, maintenant je vais rentrer dans un autre paragraphe. Comment Jacob se prépare? Parce que j'ai bien aimé la prophétie que tu as donnée hier où on voyait le drapeau qui était élimé au bout, le drapeau d'Israël. Personne ne pourra faire baisser ce drapeau. Mais ça va prendre du temps puisqu'il est élimé. Et Israël sait très bien qu'il est de plus en plus entouré d'ennemis. Il sait très bien. Alors, il y a son armée. Et vous savez, la Tsahal, c'est pas n'importe quoi. Et dans Tsahal, il y a aussi les anges. La dernière guerre contre le Hamas... les anges ont dévié des fusées.
Amen.
Et puis, ils ont aussi des commandos de 4 soldats qui attaquent et qui veulent rentrer dans les maisons pour aller détruire les terroristes. Et bien entendu, ils ne rentrent pas par la porte. Hein. Ils font sauter un mur. Ça va plus vite. Et à ce moment-là, j'ai eu un témoignage où les terroristes ont été vraiment terrorisés eux-mêmes en voyant, il y avait 4 soldats et ils disent vous êtes 8. Il y avait des anges avec. Donc, c'est l'armée de l'Éternel. Hein. C'est l'armée de l'Éternel. Alors, comment le Seigneur fera, c'est son problème, j'allais dire. C'est le peuple de Dieu. Donc, c'est lui qui fera. Mais la véritable préparation de Jacob, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Et ce que je vais vous dire, je l'ai tiré d'un livre qui s'appelle « Des jours approchent », qui est écrit par le Rav Herziel Tauber, donc c'est un rabbin qui a écrit ce livre, et je vais vous en donner un petit digeste. Le peuple juif dispose d'un trésor, qui est la Torah, et qu'il a porté au monde. Alors, le mot Torah veut dire enseignement. Hein? Et ça veut dire aussi direction. C'est la direction que tu dois prendre pour entrer dans le royaume. Hein? Et donc, la Torah est d'abord constituée du Pentateuque, hein, les cinq premiers livres. C'est ce qu'on appelle la Torah, c'est la loi écrite. D'accord? Et cette Torah a été donnée à Moïse. Dans Deutéronome 33, verset 4, il est dit « Moïse nous a donné la loi, l'héritage de l'assemblée de Jacob. » C'est vraiment l'héritage. C'est ce qu'il y a de plus important pour Jacob. Et la tradition juive dit qu'il y a 613 commandements qui ont été communiqués sur le mont Sinaï. Mais maintenant, vous savez que dans l'histoire juive, ils ont été déportés et que la déportation de Juda s'est faite à Babylone. Éphraïm, lui, il était dispersé même sans la Torah. Il avait déjà tout perdu, puisqu'il avait changé de religion, exactement comme Constantin l'a fait. D'accord ? Bon, Constantin, il a fait changer hein, la religion. Il a tout changé. Hein. On est passé du samedi au dimanche, on a commencé à adorer des saints, on a commencé à parler de Marie et tout bazar. Enfin, voilà. Hein. Mais ici, ils ont été en déportation. Et ils se sont dit, mais comment on va faire pour vivre la Torah maintenant qu'on n'est plus chez nous? Et c'est là, et c'est même du temps d'Ézéchiel, qu'ils ont créé les synagogues. Alors, ils disent, s'il y a 10 hommes dans une ville, s'il y a 10 juifs dans une ville, on fait une synagogue. Pourquoi 10? Eh bien ça vient de la Torah. Parce que quand Abraham a discuté avec Dieu concernant Sodome, eh bien le niveau le plus bas c'était 10. Vous vous rappelez? Bon, donc ils disent, s'il y a 10 juifs dans un endroit, on fait une synagogue. Et ils ont commencé à faire ces synagogues. Et il a fallu trouver des gens capables d'enseigner la Torah. Alors ce sont les soferim, c'est-à-dire les scribes, ou des hommes de lettres, si vous préférez. Et parmi eux, le plus connu d'entre eux, c'est Esdras. Et il nous est dit dans Esdras 7, 10, « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Voilà, il a creusé. Si vous saviez comment les rabbins creusent la parole, mais sur un mot, ils peuvent passer une semaine. Il y a des gens, ils étudient la parole centimètre par centimètre. C'est extraordinaire. Et puis quand ils ont un mot, ils le cassent, et puis ils en font un autre, et puis ça prend un autre sens, etc. Et c'est extraordinaire. Vous savez que le mot qui parle du voile du temple, ce mot-là, vous le prenez, vous le cassez, c'est-à-dire que je déchire le voile du temple, je le casse, j'en fais un autre mot, et j'arrive au propitiatoire. Donc, quand on déchire le mot, on refait un mot qui est le propitiatoire. Extraordinaire, non? Ça, c'est le travail de l'hébreu. Les rabbins font des études comme ça. Alors, Esdras était quelqu'un comme ça, passionné par la parole de Dieu. Passionné, s'en imprégner, faire couler la parole de Dieu dans ses veines. Et le verbe darash veut dire étudier. Ça signifie scruter, chercher, déduire, interpréter. Donc, ils mettent au point des méthodes d'étude, d'interprétation. Par exemple, on trouve un mot à tel endroit de la parole de Dieu, hop, tout de suite, ils disent « Ah ben oui, mais ce mot-là, on le trouve aussi là, puis là, puis là, puis là. » Et ils font un collier de perles avec. Et vous voyez, et ils mettent au point des méthodes d'interprétation. Et avec ça, donc c'est d'arrache le mot, eh bien, le mot mine en hébreu, ça veut dire depuis. Eh bien, on fait midrash, le midrash. C'est les interprétations de la parole. Esdras a fondé un corps de docteurs, d'enseignants, qu'on appelait la grande synagogue, et qui devait expliquer comment appliquer la Torah dans la situation où il se trouvait. Ce sont les docteurs de la loi, et à l'époque de Yeshua, eh bien, progressivement, ces docteurs de la loi, eh bien, étaient devenus le Sanhédrin. Le Sanhédrin, les sages d'Israël. À l'époque de Yeshua, vous voyez, il y avait quatre partis politiques, deux grands, les Sadducéens et les Pharisiens, et puis deux plus petits. Et lorsque le temple a été détruit, les Sadducéens ont disparu. Il restait les Pharisiens. Et les Pharisiens, ils avaient gardé le trésor. Ils avaient gardé le trésor et ils se sont installés le long du lac de Tibériade, donc à Tibériade essentiellement, et ils ont continué à étudier et ils ont écrit le Talmud. Et le Talmud signifie, c'est un mot qui signifie étude. Et ça comprend deux parties, la Mishnah et la Gemara. Donc la Mishnah, c'est quoi? Eh bien, ça vient de la racine Shana, qui signifie répéter. C'est-à-dire qu'ils répétaient, et c'est ce qu'on appelle la tradition orale, qu'on répétait par cœur. Ils répétaient. Vous savez que les enfants de 3 ans en Israël connaissent par cœur le Lévitique en hébreu. Eh oui. Parce que c'est le livre le plus pur. Donc on commence avec les enfants de 3 ans. Dans leur cœur pur, on met le Lévitique. Et tous les rabbins, même les jeunes rabbins, connaissent la parole de Dieu par cœur. On est loin du compte, vous savez, nous. On est même des rigolos par moments. Alors, ça veut dire que la compilation de l'enseignement oral est mise dans le Talmud. Et il y a deux Talmuds. Il y a le Talmud qui a été créé donc à Tibériade, qu'on appelle le Talmud palestinien, ou encore Talmud de Jérusalem. Et puis le Talmud qui a été écrit en Babylonie, ou le Talmud de Babylone, qui est le plus gros des deux, le plus gros. Et en gros, si vous voulez, ça a été terminé, ça, aux alentours du 4e siècle, après Jésus-Christ. Et puis, ensuite, ces pharisiens, ils ont, pour ne rien perdre, ils ont inventé un système de voyelles. Parce qu'il n'y avait pas de voyelles dans la Bible, ce sont que des consonnes. Écrivez « maman » sans les « o ». D'accord ? C'est ça la Bible d'origine. Et en plus de ça, vous collez tous les mots les uns contre les autres, il n'y a pas d'espace. C'est ça la Bible. C'est un long fil. Très long fil. Alors, ils ont inventé un système de voyelles de façon à transmettre aux autres. Ils ont fait un travail gigantesque entre le 5e et le 10e siècle après Jésus-Christ pour que nous, tout le monde, nous puissions retrouver la façon de prononcer, la façon même de chanter la parole. Parce qu'il y a des petits signes qui disent ben, « là, t'accélères, là, tu ralentis », etc., etc. C'est fabuleux, travail extraordinaire. Et donc, tout ça a été terminé et c'est un cadeau qu'ils nous ont fait. Et moi, je les bénis déjà pour ça. Hein, parce que sans eux, eh bien, on n'aurait rien eu du tout. Alors, comment ce peuple a-t-il pu résister à travers toutes les persécutions? Eh bien, justement grâce à cette Torah. C'est un peuple qui, vous savez, les mezouzas, pour ceux qui ont chez eux une mezouza ou qui sont allés en Israël, c'est un petit boîtier qu'on met sur la porte et dedans il y a un petit rouleau de la Torah et on le touche pour bénir. Voilà, ça s'appelle une mezouza, donc c'est une petite boîte avec un rouleau de la Torah. Et eh bien, figurez-vous que pour fabriquer une mezouza cachère, il faut respecter 500 règles orales. La loi écrite dit simplement qu'il faut le mettre sur le montant de la porte. C'est tout ce qu'elle dit. Mais il y a des règles orales. 500 règles orales. Chaque lettre qui est écrite dedans a une calligraphie et chaque lettre doit obéir à une douzaine de lois pour être convenable. Sinon, la mezouza n'est pas valide. Ici, je vais vous montrer les téphilines. Les téphilines, je pense que vous savez ce que c'est, mais en vous le montrant, vous comprendrez mieux. Vous voyez ? Vous voyez, ce sont ces objets qu'on met au front et au bras, hein, et qui contiennent des rouleaux de la Torah. D'accord ? Ça s'appelle les téphilines.
Est-ce que tu peux te lever pour... Non, c'est un peu compliqué, je vais vous le montrer. Parce que sinon, comme il est relié.
Est-ce que tu... Attention, il y a un long... Est-ce que tu pourras le remettre dans le sac après ?
Oui, bien sûr.
Alors, c'est Thomas qui nous a prêté ça, pour le montrer, simplement. Hein. Voilà. Voilà, c'est une petite boîte et dedans, il y a les rouleaux de la Torah, d'accord, que l'on met sur son front et sur son bras. D'accord ? C'est selon la parole de Dieu, hein, c'est écrit. Hein. Tiens, si tu peux remettre dans le sac parce que c'est précieux. Merci. Alors, je vais vous dire... Les scribes. Un scribe qui veut faire des téphilines qui sont vraiment cachères doit suivre 30 000 règles orales. Ce qui fait que les téphilines que vous découvrez, des anciennes téphilines que vous dans l'archéologie on en trouve à Masada par exemple, ou bien qu'on va en trouver au Yémen ou n'importe où, sont exactement les mêmes. Eh bien, vous voyez, c'est grâce à ces règles-là que le peuple de Jacob, le peuple d'Israël, a pu se maintenir vivant et indépendant. C'est grâce à ça. Alors qu'on n'aille pas les accuser d'être des légalistes ou de je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont arrivés au bout du chemin et ils attendent le Messie comme nous. Et ça n'empêche pas que c'est un peuple très divisé. C'est un peuple qui est très divisé. Et je vais vous citer ici une parole du premier président de l'Israël moderne, qui s'appelait Chaim Weizmann. Et il a parlé au président Harry Truman, président américain. Et il a dit ceci. « Je crains que mon travail soit plus ardu que le vôtre. Vous êtes le président de 200 millions de citoyens, alors que moi, je suis le président d'un million de présidents. » C'est vrai, les Juifs, c'est comme ça. Hein. Alors, il fallait que le peuple qui était dispersé dans le monde, il était dispersé. Ça ne fait que 70 ans bientôt qu'il est retourné dans sa terre, mais il était dispersé. Et quand on est perdu, par exemple dans un métro, mais qu'est-ce qu'on fait? On cherche la carte. Eh bien, la carte d'Israël, c'est la Torah. Donc, il faut et il fallait que les Juifs retournent à la Torah. Ils ne sont pas tous revenus à la Torah encore, on le sait bien, mais c'est en route, il y en a de plus en plus. Hein? Alors, il faut... Ensuite, je vais vous parler un petit peu de l'Holocauste, parce que personne n'a trouvé les raisons de l'Holocauste. Même si certains ont écrit des livres fort intéressants et qui parlent de pourquoi Dieu n'était pas à la Shoah de Arthur Katz, qui est un livre très intéressant, où était Dieu. Ici, je vais vous donner une autre explication. Vous savez, il y a des explications, on en trouve. Hein. Pourquoi Dieu a-t-il permis une chose pareille, 6 millions de morts dans la Shoah? Eh bien, supposons qu'un primitif vienne dans un pays civilisé et il voit une entreprise en train de détruire un immeuble de 15 étages. Ça, c'est courant, hein. On se dit, mais pourquoi ils détruisent cet immeuble-là? Il était encore bien, il aurait peut-être fallu changer les fenêtres ou je ne sais pas quoi, enfin, mais il était encore bien. Pourquoi est-ce qu'on le détruit? Et on lui dit, mais c'est pour en bâtir un plus beau, hein, de 50 étages, un plus grand. Mais alors on dit, mais pourquoi on ne bâtit pas au-dessus? Ben parce que les fondations ne sont pas assez solides. Il faut tout recommencer. Et alors, peut-être fallait-il que Dieu détruise la structure européenne du monde juif. Détruire tout. Pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau, qui est l'État d'Israël, pour pouvoir recevoir le Mashiach. Donc, il y a eu cette destruction. Alors, détruire le cœur du monde juif d'Europe, c'est énorme, c'est énorme. Vous voyez un peu ce qu'ils ont payé comme prix. Pour que nous puissions, nous aussi, voir l'arrivée du Mashiach. Alors le juif doit prendre le chemin de la Torah pour pouvoir comprendre à travers la Torah qui est Mashiach. C'est à travers la Torah qu'il trouvera Mashiach. Et l'État d'Israël actuel n'a pas été créé sur un idéal religieux mais laïque. C'est un État laïque. Et il faut absolument qu'il revienne à la Torah, parce que sinon, un État laïque ne résisterait pas. Et ce phénomène de retour à la Torah s'appelle faire teshuva. Et ce phénomène a commencé en URSS. Il y a eu un mouvement qui s'appelait un mouvement de Teshuvah. Des hommes se regroupaient en URSS. Ils se fixaient des rendez-vous dans des lieux secrets et dans des domiciles privés pour étudier ensemble la Torah. Et ils étaient au minimum 10. Et le retour à la Torah était quelque chose qui était prévu dans un midrash écrit il y a 1500 ans. Je vais vous le lire. C'est de Bé Eliaou. Le peuple juif retournera dans sa terre, prédit la Torah. Comment peut-on le savoir? Demande Eliaou. Sache qu'ils voudront revenir, répondront Eliaou. Israël ne sera pas édimé par le biais de la souffrance, des persécutions, de la maladie ou par suite d'une crise économique. Il accédera à la délivrance grâce à des groupes de 10 juifs qui ensemble s'assieront pour étudier la Torah et apprendre les uns des autres. C'est écrit il y a 1500 ans. Et alors, quand les Juifs ont désobéi à Dieu, Dieu les a dit, ben, puisque vous aimez les faux dieux, puisque vous aimez les nations, eh ben allez-y, paf, je vous envoie dans les nations. Donc ils ont été dispersés dans les nations et ils sont allés faire toutes les expériences possibles et imaginables dans les nations. Absolument tout. Par exemple, ce sont eux qui ont inventé le communisme. Et quand il y a eu la révolution russe, excusez-moi, mais quand il y a eu la révolution russe, écoutez, ça ce sont des statistiques, je vais vous dire, il y avait 41 juifs sur 62 membres du comité central, 23 juifs sur 36 membres de la commission extraordinaire de Moscou, 17 juifs sur 22 membres du gouvernement bolchevique, 457 juifs sur 556 hauts fonctionnaires. Ils ont tout fait. Et arrivés au bout de toutes les expériences humaines, ils reviennent à la maison. Je vais vous raconter, c'est une histoire qui est dans ce livre dont je vous ai parlé, c'est l'histoire de Madame Schwartz. Madame Schwartz. Je vais vous la lire. Cette dame avait assisté à un séminaire d'une semaine sponsorisé par une religion orientale. Elle tricotait au fond de la salle. À la fin, on annonça qu'un congrès d'un mois était proposé aux personnes qui désiraient s'approfondir. Trois ou quatre personnes se sont inscrites, dont Madame Schwartz. Comme elle avait payé les 3 000 $ demandés, elle fut inscrite. À la fin du congrès, on proposa un pèlerinage exceptionnel auprès du Saint-Gourou au Tibet pour un montant de 15 000 $. Là encore, Madame Schwartz fut inscrite. Arrivée là-bas, il fallait se mettre dans la file plusieurs jours pour obtenir un entretien. Mais elle sut qu'il y avait une autre file pour les personnes qui n'avaient que 5 mots à dire au gourou. « Très bien, dit-elle, je n'ai justement que 5 mots à formuler. » Quand elle s'approcha du gourou, elle le regarda droit dans les yeux et lui dit « David rentre à la maison. » Le gourou était son fils. Et David est rentré à la maison. Il est allé au bout. Vous voyez, il est allé au bout. Alors, ici, je vais vous lire une prophétie, parce que vous savez, les sages d'Israël, ils reçoivent des prophéties. Le Saint-Esprit leur parle. Rabbi Moshe Cordovero, au XVIe siècle. XVIe siècle. Écoutez un peu. Un jour, tous les pays tiendront conseil et se mettront à parler de paix internationale. Ce discours pacifiste ne visera qu'un seul objectif, la destruction d'Israël. Leur justification sera le fait que les Juifs auront établi leur propre gouvernement. Ils seront alors en grand danger, mais ils ne seront pas détruits. En réalité, c'est de cette situation même que germera leur salut. Amen. Quelle prophétie! Alors le grand danger va venir du fait qu'ils n'auront plus d'amis, plus de lieux pour se réfugier. Et c'est quand leur sort sera désespéré qu'ils seront prêts à se tourner vers leur Machia. Alors maintenant, je voudrais revenir à notre père Verlan. Parce que quand même, moi je vous ai montré comment Israël se prépare avec sa Torah. C'est son outil, c'est sa force, c'est vraiment, c'est l'âme juive. Vous vous rappelez dans l'histoire d'Esther maintenant, de l'édit d'Assuérus.
Oui.
un édit de mort. C'était au temps de la reine Esther. Et le peuple juif n'avait plus aucune solution. Pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, le même phénomène s'est reproduit. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je vais vous le mettre. Je vais vous mettre au courant, parce que c'est important de le savoir pour nous qui sommes chrétiens. Il faut connaître l'histoire. L'édit moderne d'Assuérus, on va le dire comme ça, s'appelle le protocole des sages de Sion. L'origine de ce protocole des sages de Sion est née dans un pays antisémite, la Russie, à la fin du XIXe siècle. À l'époque, la police secrète du tsar était basée à Paris. C'est curieux, hein ? Parce qu'il faudra peut-être demander pardon pour ce que la France a fait. Et l'État russe devait trouver des coupables au mouvement révolutionnaire qui se développait à l'époque. Et c'est dans ce contexte-là qu'un agent de la police du tsar, établi en France, et qui s'appelle Mathieu Golovinsky, va écrire un document qui sera publié le plus largement possible et qui s'inspire directement d'un ouvrage de Maurice Joly paru à Bruxelles en 1864 et qui s'appelle « Le dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». Le protocole reprend à peu près pour moitié des extraits de ce texte, sauf que ça parlait à l'époque d'un complot que Napoléon III aurait fait pour prendre le pouvoir absolu en France, et que, au lieu de parler de Napoléon III, ça parle des Juifs qui veulent prendre non pas la France, mais le pouvoir sur tout le globe. Donc, le document « Protocole des sages de Sion » est publié en russe le 26 août 1902. Et puis, il sera traduit dans de nombreuses langues et diffusé à travers le monde. Et les historiens russes pensent que la première version aurait été écrite en français. Et il va falloir attendre 1992, vous voyez, presque 100 ans, hein, pour accéder aux archives de l'Union soviétique et pour découvrir que le protocole des sages de Sion est officiellement un faux. Preuve à l'appui. Alors, la publication en France de cet ouvrage, je vais vous en parler, hein, parce que c'est très important. La publication en France est interdite depuis le 25 mai 1990. C'est pas si vieux que ça, hein. Interdit, mais c'est désolant de voir que la publication totale de cet ouvrage se trouve sur Wikisource. Alors, je vais vous en parler. On a voulu faire croire que le protocole des sages de Sion a été rédigé lors du congrès sioniste mondial à Bâle en 1897. Et le document ne serait rien d'autre qu'un plan diabolique élaboré par les Juifs afin de détruire les civilisations existantes et prendre le pouvoir mondial. On a même fait croire que, bien sûr, on a fait croire que les auteurs étaient des Juifs, bien sûr, c'est évident. Mais figurez-vous que une preuve que ce ne sont pas les Juifs qui l'ont écrit, c'est qu'il y a deux citations de l'Évangile dedans. Alors ça ne peut pas être des Juifs. D'accord ? Alors, il y a 24 protocoles. Qu'est-ce que c'est qu'un protocole ? C'est une manière de faire pour arriver à un but donné. Ce but, c'est de prendre le pouvoir sur Terre. D'accord ? Alors, je vais vous lire un tout petit résumé de quelques protocoles. Le premier, c'est emploi de la violence et de l'intimidation, destruction des États, instauration d'une autocratie juive, encouragement de l'alcoolisme et de la corruption, destruction des régimes dynastiques. Deuxième, acquisition de l'influence par la presse, nécessité des guerres économiques, accumulation de l'or aux mains des Juifs. Troisième, opposition entre des partis politiques, interdiction de l'aristocratie, protection des communistes, création d'une crise économique mondiale, protection totale des Juifs, éducation faussée des peuples. Et ainsi de suite. Quatrième protocole, regardez où ça va. Destruction de la foi en Dieu. Encouragement de la spéculation pour ruiner les non-juifs. Alors, regardez ici. Dixième protocole, disparition de la famille. Règne mondial d'un souverain juif. Douzième, contrôle de la presse et d'autres publications, instauration de la censure. Quinzième, organisation de coups d'État juifs dans tous les pays, faire main basse sur les services de police, organisation de massacres des non-juifs. Le seizième, mainmise sur l'enseignement, abolition de la liberté d'enseignement, disparition de la liberté de pensée. 17e protocole, destruction du Vatican et de l'Église catholique, instauration d'une Église juive universelle. Et il y en a 24 comme ça. Bien sûr, ce ne sont que des petits résumés. Hitler va se servir de ça. Et je vous lis maintenant, je vous donne beaucoup de lectures, je m'en excuse, mais c'est important. Je vais vous lire un petit morceau du Mein Kampf, écrit en 1925. Il dit ceci, « Les protocoles des sages de Sion que les Juifs renient officiellement avec une telle violence ont montré d'une façon incomparable combien toute l'existence de ce peuple repose sur un mensonge permanent. Ce sont des faux. » répète en gémissant la Gazette de Francfort et elle cherche à en persuader l'univers. C'est là la meilleure preuve qu'ils sont authentiques. Ils exposent clairement en connaissance de cause ce que beaucoup de Juifs peuvent exécuter inconsciemment. C'est là l'important. Il est indifférent de savoir quel cerveau juif a conçu ces révélations. Ce qui est décisif, c'est qu'elles mettent au jour, avec une précision qui fait frissonner, le caractère et l'activité du peuple juif, avec toutes les ramifications, les buts derniers auxquels il tend. Le meilleur moyen de juger ces révélations est de les confronter avec les faits. Si l'on passe en revue les faits historiques des 100 dernières années à la lumière de ce livre, on comprendra immédiatement pourquoi la presse juive pousse de tels cris. Car le jour où il sera devenu le livre de chevet d'un peuple, le péril juif pourra être considéré comme conjuré. Vous voyez qu'il s'en est servi. Et on connaît le résultat, c'est la Shoah. Alors, ce document qui est un faux, ça a été prouvé. Eh bien, ce document, il est passé dans d'autres mains. Alors vous voyez, ça part de la Russie, non, ça part de la France. Ça part de la France. Ça passe en Russie. Ça passe en Allemagne. Là, il y a un homme qui ressemble à Amman. Il s'appelle Hitler. Il fait ce qu'il doit faire. Il meurt. Et maintenant, ça passe chez les islamistes. Alors, on va continuer, hein, parce que c'est important. Il y a un homme qui s'appelle Pierre-André Taguieff, qui est chercheur au CNRS et qui écrit des livres intéressants. Il a mis un article dans Valeurs Actuelles en 2008, et il dit que l'anti-juif de notre temps ne s'affirme plus raciste. Hitler était raciste. D'accord ? Maintenant, les anti-juifs modernes ne sont plus racistes. Ils dénoncent au contraire le racisme comme ils condamnent l'islamophobie, en stigmatisant les sionistes en tant que racistes. Vous voyez, sur la victime, on met la faute. C'est eux les racistes. Et en stigmatisant de cette façon, ils s'affirment antiracistes et pro-palestiniens. Les anti-juifs ont retrouvé le chemin de la bonne conscience. C'est lui qui dit ça. C'est la perversité. Cette génération perverse va utiliser les moyens dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire accuser, toujours mettre la faute sur, etc., etc. Pourquoi ? Pour épuiser. Et comme Satan est caché, il épuise. Et comme il est caché, on ne sait pas que c'est lui. Un jour va venir un homme et il ne sera pas marqué sur son front Satan. Et cet homme va offrir des faveurs à Israël. Comment voulez-vous ? Et c'est là que l'alliance se fait. Vous voyez ? Mais tout le travail avant. Alors, quelle est la propagande islamique actuelle ? Il y a un site, le site Lamed, tout ça, tous ces documents que je vous lis, je les ai pris, j'ai mis les références. Hein. Les islamistes disent que le protocole des sages de Sion, qui a été traduit en arabe et qui est diffusé dans tous les pays arabes, c'est la constitution secrète de l'État d'Israël. La constitution secrète de l'État d'Israël. Dans la charte du Hamas, on en parle. Par exemple, dans l'article 28, l'invasion sioniste est vicieuse, elle ne recule devant aucun moyen et méthode, utilisant tous les moyens vicieux et méprisables pour réaliser son objectif. Elle s'appuie sur les organisations qu'elle a créées, à savoir les francs-maçons, le club de Lyons, le Rotary pour les opérations d'infiltration et d'espionnage. Toutes les organisations, secrètes ou non, œuvrent dans l'intérêt du sionisme et agissent selon leurs instructions. Leur objectif est de saper notre société, de détruire les valeurs, de corrompre les consciences, d'annihiler l'islam. Ces sociétés, secrètes ou non, sont derrière la vente de drogue, de l'alcoolisme, afin de réaliser faciliter leur expansion. Leur plan, ça c'est dans l'article 32, est contenu dans le protocole des sages de Sion. Leur conduite actuelle est la preuve de ce que nous avançons. Ça reprend exactement la même chose qu'Hitler. Exactement. Ils s'en servent de la même façon. C'est parti de Russie, de France, pardon, excusez-moi, mais en passant par la Russie, etc. Et l'expansion actuelle de ce protocole, eh bien, c'est enseigné dans les écoles de l'islam. La création de l'État d'Israël en 1948 amène de nombreux gouvernements arabes à faire une large diffusion. Ça a été traduit en 9 langues différentes. Et en Syrie, le protocole a eu de nombreuses éditions. La dernière date de 2005. En Iran, la première édition était en 1978. Et puis ensuite, ça a été continué. En 1994, elle a été reprise dans un quotidien sous le titre « L'odeur du sang, le plan sioniste ». En Arabie Saoudite, c'est enseigné dans les écoles. Écoutez ce qui est écrit dans les écoles. Le protocole des sages de Sion sont des résolutions secrètes établies probablement après le congrès de Bâle. Les Juifs ont tenté de les nier, mais leur identité est largement prouvée. Au Liban, eh bien, en mars 70, le protocole est considéré comme étant un des 10 best-sellers du Liban. En novembre 2003, le Hezbollah diffusait une série basée sur les protocoles sur la chaîne Al-Manar. Dans les territoires palestiniens, l'article 32 de la charte du Hamas dit « Le plan sioniste est sans limite. Après la Palestine, les sionistes aspirent à s'étendre du Nil à l'Euphrate. Quand ils auront digéré la région qu'ils auront conquise, ils aspireront à plus d'expansion et ainsi de suite. Le plan détaillé est dans le protocole des sages de Sion. Et leur application présente la meilleure preuve de ce qu'ils disent. » Donc vous voyez que c'est partout. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui est partout. Et pour essayer de comprendre pourquoi la guerre de Gog va démarrer de Russie. Maintenant, quand j'ai parlé avec un rabbin, je lui ai dit, mais avant que le Seigneur revienne, avant que Machiav vienne, il y a la guerre de Gog, je lui ai dit ça. Et il me dit, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que dans le Tanakh, il y a les prophéties positives et des prophéties négatives. Les prophéties positives arrivent toujours. Les prophéties négatives n'arrivent que si le peuple ne fait pas teshuvah. Donc il dit, si le monde se repent, si le monde fait teshuvah, il n'y aura pas la guerre de Gog. Alors moi-même j'ai pensé, il n'y a pas beaucoup de chance, c'est pas bien parti pour ça. Hein? Et une des racines, vous voyez, ce protocole, c'est un des ouvrages, on va dire, accusateurs. Mais il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Il y en a un qui vient d'être écrit dans la communauté européenne. Une trentaine de pages. Je vais vous lire un article qui a été publié en 2002. C'est un article qui a été écrit dans l'Express, qui s'appelle « Le trouble jeu de l'Église orthodoxe ». En avril dernier, Monseigneur Mazur, évêque des 50 000 catholiques du diocèse de Sibérie, a été expulsé sans explication. Comme avant lui le père Stefano Caprio. Depuis des mois, le patriarcat de Moscou mène une campagne contre l'Église romaine, forte de 800 000 croyants avant 1917, mais accusée aujourd'hui de prosélytisme à l'égal d'une secte. Au regard de la Constitution, l'orthodoxie n'a pas de statut de religion d'État, mais sa haute hiérarchie regarde la Russie comme son territoire canonique, avec la complicité tacite du pouvoir. Vladimir Poutine laisse graver son nom sur les cloches, comme jadis les tsars. Nombre de nationalistes amalgament russes et orthodoxes, à l'instar des fondamentalistes de l'Église qui partagent leur idéologie, voire leur antisémitisme. Publié par le Centre de littérature orthodoxe de Saint-Pétersbourg, un ouvrage du début du XXe siècle comportant en annexe le protocole des sages de Sion, faux notoire fabriqué par la police tsariste, était distribué il y a peu dans les églises. Alors vous comprenez pourquoi, si la guerre de Gog doit avoir lieu, elle démarrera de là-bas. Donc, le protocole des sages de Sion est souvent accompagné d'images. Vous les aurez dans le document. où on représente Israël comme une pieuvre, comme un serpent, comme un scarabée qui prend le monde dans ses bras. C'est une horreur, c'est une abomination, et l'armée de Dieu doit se lever pour dire la vérité concernant le peuple de Dieu. Document contre document. Il faut mettre un vrai contre un faux. Et moi, dès que je peux, je parle en bien de ce qui se passe en Israël. Comment se fait-il que en Israël, dans les hôpitaux, on soigne la fille, la femme et la fille du chef du Hamas? Comment ça se fait-il que on soigne des Syriens dans les hôpitaux d'Israël? Comment se fait-il qu'il y a des gens d'Arabie Saoudite qui viennent se faire soigner en Israël? Comment ça se fait? Parce que c'est écrit dans la Torah. Dans la Torah. Comment se fait-il, quand il y a un attentat, qu'on soigne en premier le plus blessé des deux, et si c'est un Palestinien, c'est un Palestinien. Le Juif passera après. Vous vous rendez compte? Alors, évidemment, nous devons nous lever pour une deuxième chose aussi, c'est qu'il y a le code d'Omar. Je ne sais pas si vous connaissez le code d'Omar, mais je vais vous en parler. Il a été écrit en entre 634 et 644, le code d'Omar, et qui dit ceci. C'est la façon avec laquelle doivent se conduire quand un pays est dominé par l'islam, comment doivent se conduire les membres qui ne sont pas de la religion islamique, et en particulier les juifs et les chrétiens. Ces gens-là sont appelés des dhimmis. Alors, écoutez, il est interdit de construire des nouvelles synagogues. On pourrait dire de construire aussi de nouvelles églises, hein. D'employer des musulmans, d'empêcher la conversion d'un juif à l'islam ou d'un chrétien à l'islam, d'adopter toute appellation ou nom musulman, de porter des armes, interdit de porter des armes, de monter à cheval, parce que c'est la puissance de marcher à cheval. Seul l'âne sans selle est permis. Interdit de construire des habitations et des sépultures plus hautes que celles des musulmans. Vous savez qu'il y a eu un concours de hauteur en Israël, hein? Ouais. Je vais vous dire une chose. Le mont du Temple, que les musulmans essayent de rafler, il était bien entendu aux juifs. Une malédiction est tombée dessus. Et Dieu a dit, parce que vous avez fait tout ça, ça sera labouré. Constantin est arrivé, surtout sa mère. Et sa mère a fait construire le Saint-Sépulcre. Plus haut que le mont du Temple. Plus haut. D'accord? Et pour bien montrer que le mont du Temple n'était plus aux juifs, c'est devenu un tas d'ordures. Un tas d'immondices. On y mettait même les serviettes des femmes, etc. Enfin, tout est cochonnerie, on y mettait. Voilà. Et interdiction aux juifs d'aller dessus. Quand les Arabes sont venus, c'est eux qui ont nettoyé. Quand les musulmans sont venus, ils ont nettoyé le mont du Temple. Et les juifs les ont remerciés. Ils ont fait construire la mosquée plus haute que le Saint-Sépulcre. Eh bien, figurez-vous que la grande synagogue de Jérusalem est plus haute encore. C'est un concours. Alors, en dessous, finalement, ce dôme doré qu'on voit, c'est une protection. C'est une protection de la pierre sacrée qui est en dessous. Et en dessous de la pierre, très profondément, il y a l'eau. Il y a l'eau qui va jaillir quand Yodévavé va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, ça va jaillir. Et actuellement, on nous dit que si ce bâtiment s'écroulait pour une raison ou pour une autre, on ne pourrait pas le reconstruire parce que les fondations sont trop mouillées déjà. Alors ça, c'est la stratégie de Dieu, il fera comme il veut. Hein. Alors je vais conclure. À présent, de retour dans sa terre, Israël est menacé dans son par son propre demi-frère, Ismaël. Mais on constate que l'édit de mort est parti de Russie. Il a été repris par un homme qui s'appelle Hitler, qui ressemble à Haman. Et puis l'édit de mort s'est répandu dans l'islam. Et il prospère actuellement. Et en Russie, il reprospère à travers l'église orthodoxe, l'église chrétienne. Alors pourquoi on parle de Gog? Ben à cause de ça. Et on comprend pourquoi l'église est apostate, c'est le cas aussi à cause de ça. Maintenant, à nous de choisir qui nous voulons soutenir. Et moi, quand je lis cette parole que le Seigneur dit, mais entrez dans mon royaume parce que j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Il parle d'abord d'Israël. Qui va oser à l'avenir donner à boire et à manger à un juif? Si vous donnez à l'avenir encore à boire et à manger à un juif, ça veut dire que vous êtes comme lui. Ça veut dire que vous subirez le même sort. Alors il faut choisir. Moi, il y a longtemps que j'ai choisi. Que le Seigneur les bénisse et qu'il vous bénisse. Amen.
Amen. Amen. Je voudrais...